écoutez KTO Radio, il est 14h.
Diocèse de Bathurst, en Acadie, situé au Nouveau-Brunswick, de l'autre côté de la baie des Chaleurs qui le sépare du Québec, la mer n'est pas qu'un moyen de subsistance, elle est aussi un lieu de foi, de mémoire et de transmission. Chaque printemps, à l'heure de la pêche aux crabes et aux homards, une pastorale bien vivante se déploie sur les quais. Le père Serge Comeau, vicaire général du diocèse, revient sur les origines profondes de ce lien entre la mer et la foi en Acadie.
Les premiers Acadiens qui sont arrivés en Acadie étaient des agriculteurs. C'est par nécessité qu'ils sont devenus pêcheurs. Plusieurs Acadiens ont dû apprendre le métier de pêcheur pour pouvoir survivre. Probablement à cause des risques liés au métier de la pêche et aussi à cause de la providence qui donne le poisson, qui nourrit tant de familles, les pêcheurs spontanément ont presque une théologie de la mer. Ils apprennent Dieu au contact de leur métier à cause de l'immensité de l'océan, de la beauté de la création qui les rapproche de la divinité, mais aussi à cause de ce moyen de subsistance, la pêche, où on reçoit des poissons presque gratuitement. Pour la pêche, on n'a qu'à aller en mer et le poisson nous est donné. Donc, c'est vraiment un signe de providence. C'est Dieu qui nous nourrit. Donc, je pense que spontanément, les pêcheurs ont une fibre religieuse liée à leur métier. Et nous, comme Église, on essaie de se faire proche de ces gens-là, mais je dirais que c'est une pastorale un peu comme le pape François le souhaitait, une pastorale en sortie. C'est pas nécessairement des gens qui viennent vers nous, mais nous, on est invités à aller vers eux. Et ils nous ouvrent toujours largement leurs bras, comme ils nous invitent à monter à bord de leurs embarcations. Et ces gens-là sont très sensibles à la démarche que l'Église peut faire d'aller vers eux.
Sur le terrain, cette pastorale prend forme grâce à des prêtres comme le père Anthony, missionnaire en provenance du Nigeria depuis environ 7 ans. Ils partagent leur quotidien et aiment venir les retrouver sur leur bateau.
Aïe, ça va bien? On va par où?
Pendant la pêche ici, ça bouge parce que les gens s'engagent. Moi, j'ai la chance à partir au large avec quelques pêcheurs ici.
Est-ce que les gens vont sortir?
Alors, les gens ici sont des croyants, même si on ne peut pas dire qu'ils sont tous des pratiquants. Mais il croit. Quelqu'un qui vient par l'église va dans son bateau, tu vois une croix, tu vois des rameaux, tu vois des images de Jésus, de Marie. C'est des signes qu'il croit. Alors il y a toujours un danger dans leur métier. Des fois, des gens disent « Oh, ils travaillent 2 mois seulement, mais dans 2 mois, là, ils risquent leur vie. » Maman Marie, la Vierge Marie, c'est la patronne de l'Acadie. Mais aussi, les gens croient que le manteau de Marie le protège. Je reçois toujours l'invitation de venir bénir leur bateau au début de la pêche. Alors, moi, je vais au quai bénir les bateaux. En arrivant là-bas, je bénis quelques bateaux et je vois les gens dire oh, « Viens bénir mon bateau. »
Nadine et Donan Rail, pêcheurs de homards, témoignent de l'attachement des gens de la mer à ces gestes de bénédiction. Pour eux, la foi est une partie intégrante de leur métier.
Ah, oh, Tony, on l'a embarqué comme si c'était notre enfant, hein, tu sais. Il était jeune quand il est arrivé ici, puis avec nos amis, on l'a compris en adaptation, comme on dit, par l'emba. Ah. Mais quand il voit arriver Père Anthony, oui, moi aussi, je veux faire baptiser mon bateau. Ils ont leur eau bénite. T'sais, ils veulent vraiment là, avoir une bénédiction. Là. C'est comme si ils ont besoin de ça. Là. Tu le vois dans leur regard. Là.
Puis on a 300 cages aux morts à pêcher par jour. On met tout ça, c'est tout des lignes comme de 7 trappes. C'est autour de 7 à 8 heures d'ouvrage pour pêcher. Ouais. Ça, c'est beau temps, mauvais temps.
Toujours, je suis là, puis ils disent « Ah, oh, t'as sauté! » partis aujourd'hui au large. Seigneur David, ça brassait, ça aurait dû brasser. Oui, ça brassait, mais je dis, ma mère le faisait. Puis elle est là, là, elle est décédée présentement, mais j'ai sa photo est là. Puis c'est la photo aussi à son père.
Son père qui était un pêcheur aussi.
Qui était un pêcheur aussi.
Ça, ouais. Nos deux anges gardiens.
Nos deux anges gardiens, oui. Puis on a toujours et là, notre croix, il nous protège tout le temps. Je dis tout le temps que quand on finit, merci mon Dieu d'avoir donné cette belle récolte aujourd'hui qu'on a eue là. Parce que je me dis que si on n'a pas la croyance à quelque part, c'est lui qui nous aide à traverser des épreuves ou des choses. Mais c'est important. C'est important, la foi. D'avoir la foi. Je suis comme émue, là, mais c'est ça que c'est.
D'autres pêcheurs, comme Jean-Victor Duguay et Jean-Eudes Larocque, expriment à leur manière cette foi simple et profonde qui les accompagne en mer, héritée souvent de leurs parents et même grands-parents.
Je suis pas méga d'autre, mais j'aime pas quelqu'un blasphème sur le bateau. Cette affaire-là, ça fait que j'ai tout le temps confiance que quelqu'un nous protège. Soit dans les tempêtes, des mauvais temps, quelque chose. Ça fait que tout le temps remercier. Toutes les fois, j'ai ça. Depuis le temps que j'ai pêché, j'ai tout le temps remercié quand je m'en venais de la pêche. J'ai remercié le Seigneur qui nous protégeait le temps qu'on était à la pêche. Puis je lui demande tout le temps qu'il protège les pêcheurs aussi.
Moi, j'ai la foi. Parce que mon père se levait le matin, puis il disait son chapelet, avant de venir nous faire le pain. Mais moi, j'ai continué ça. Une couple d'années après, là, ben mon chapelet me suivait. Ma grand-mère, elle disait, oublie pas la providence.
Sur ces rivages du golfe du Saint-Laurent, la mer reste indissociable de la foi. Dans un métier exigeant, parfois périlleux, la prière, les traditions et la présence de l'Église offrent aux pêcheurs une force invisible mais essentielle. Une pastorale fidèle à l'esprit acadien, faite d'accueil, de respect et d'espérance. Chaque année, la saison de la pêche au homard s'étale dans la région du 1er mai au 30 juin.
À Jérusalem, deux jours de célébration intense ont accompagné la solennité de la Pentecôte, avec des moments de prière et la participation de toute la communauté chrétienne. À Derafat, le cardinal Pierre Battista Pizzaballa a présidé la messe du jubilé de l'espérance pour les familles, au sanctuaire de Notre-Dame Reine de Palestine. Un signe fort de foi et d'espérance. Le 7 juin, à l'Institut Pontifical Notre-Dame de Jérusalem a été inaugurée la nouvelle salle de la Pentecôte, réalisée par l'artiste chilien Daniel Cariola. En exclusivité pour le Christian Media Center, l'auteur a raconté la signification et les détails de son œuvre. À Bethany, le centre culturel Osama Hamdan, dédié au célèbre architecte disparu, constitue un point de référence pour la préservation du patrimoine culturel et religieux palestinien. En terre promise comme en terre étrangère est le thème du cours de formation et de mise à jour destiné aux accompagnateurs spirituels de pèlerins en terre sainte. Une expérience unique au cœur du christianisme. Jérusalem a célébré la Pentecôte 2025, redevenant une fois de plus le signe visible d'une Église toujours universelle et locale. Le samedi 7 juin a débuté par une veillée de prière à Notre-Dame, présidée par le cardinal Pierre Battista Pizzaballa. Dans son message, le patriarche a adressé des paroles d'espérance à cette assemblée de pèlerins, laïcs, religieux, arabes et israéliens, tous catholiques venus ici pour étudier, passer une période de leur vie, ou simplement chercher des réponses. L'Église de Jérusalem incarne une réalité très particulière où le monde paraît à la fois tout petit et en même temps bien plus grand que ce que l'on peut en comprendre. La violence qui nous entoure, la mort qui traverse le présent de cette terre et nous accable, est illuminée par le feu de l'Esprit-Saint, a déclaré le patriarche avant d'oindre tous les fidèles avec l'huile sainte. C'est l'Esprit qui nous ouvre à l'intelligence du mystère pascal. C'est lui qui, aujourd'hui encore, vient transformer le monde, brûler nos infidélités et raviver en nous la vie du ressuscité. Car nous sommes ressuscités avec le Christ et nos frères à Gaza, que le patriarche a encouragé avec un grand amour, vivent eux aussi dans l'esprit. Et celui qui vit dans l'esprit ne craint pas celui qui tue le corps, car nul ne peut nous arracher à Dieu. Le samedi soir, la veillée a eu lieu dans la paroisse de Saint-Sauveur, présidée par le custode de Terre Sainte. L'Esprit Saint me guide assurément et m'aide beaucoup lorsque je traverse des moments difficiles. Il m'oriente dans mes relations avec les autres, dans la prière et dans les choix que je dois faire.
Cette semaine, c'est la Pentecôte et j'ai choisi de venir ici pour participer à cette célébration. D'après mon expérience, l'Esprit Saint nous donne une conviction profonde et un ardent désir de vivre en Christ, de devenir saint.
Le dimanche de Pentecôte, le patriarche a célébré à l'abbaye bénédictine du Mont Sillon, accueillie par l'abbé Nicodémus et la communauté monastique qui y réside, tout en recevant lui-même les fidèles venus du monde entier. Je viens du Nigeria, d'Afrique, mais ici, pratiquement toutes les langues sont représentées, toutes les cultures, et c'est vraiment magnifique. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que l'Esprit Saint nous donne intérieurement, cette paix qui remplit notre cœur.
Je dois avouer que je ressens aujourd'hui une profonde gratitude. Comme l'a rappelé le patriarche, nous sommes ici là où la première Église s'est véritablement manifestée et nous en sommes la continuité. Quel grand honneur et quelle grâce immense. Pour moi, personnellement, le cœur du message d'aujourd'hui est simple. N'ayez pas peur. Le Christ nous a dit « Paix à vous ». La Pentecôte nous pousse à sortir de nous-mêmes, à parler de nouvelles langues, à rencontrer des cultures, des langues et des sensibilités très diverses. Nous ne sommes pas seuls pour affronter tout cela. L'Esprit Saint est avec nous pour toujours.
We have never to manage things by ourselves. Always the Holy Spirit is with us.
Les frères de la custodie de Terre Sainte ont célébré au Cénacle dimanche matin et après-midi. Une Pentecôte particulièrement marquante, empreinte de gratitude pour les 9 années de service du frère Francesco Patton, un homme bon, cultivé, doux et affable, qui se prépare désormais à quitter son ministère de custode pour continuer à servir l'Église là où Dieu l'appellera.
Ecco, anche per me è stata una esperienza maturante in questi 9 anni.
Pour moi, ces 9 années ont été une expérience très enrichissante. J'ai sans doute plus appris que ce que j'ai pu enseigner, et j'ai reçu davantage que ce que j'ai pu donner. Je dirais que pour moi, l'un des aspects les plus beaux et significatifs de ce service a été de toucher du doigt le prodige de la Pentecôte, et d'avoir expérimenté cette universalité de l'Église de manière profonde et personnelle.
Questa universalità della Chiesa in modo direi profondo e personale.
Le 7 juin, les familles chrétiennes se sont rassemblées au sanctuaire de Notre-Dame de Palestine, à Deir Rafat, pour recevoir la bénédiction de l'année jubilaire de l'espérance et pour renforcer les liens familiaux dans l'union avec Jésus-Christ.
Nous sommes venus jusqu'ici, en cette année jubilaire, pour demander au Seigneur de garder les liens entre les membres de notre famille et pour le remercier, chaque jour, de tout ce qu'il nous a donné.
La messe solennelle a été présidée par le cardinal Pier Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, en présence de nombreux évêques et prêtres. Lors de son homélie, il a eu une pensée particulière pour la paroisse de la Sainte Famille à Gaza, la mentionnant en cette occasion spéciale. Il a ensuite proclamé l'évangile du jour, soulignant qu'avant le Christ, chaque famille devait se rendre au temple pour chercher Dieu, tandis qu'avec le Christ, c'est Dieu lui-même qui visite les familles, comme il le faisait dans les villages de Galilée. La famille chrétienne est une petite église qui, dans un monde troublé, transmet la foi et les valeurs de génération en génération.
Nous ne pouvons pas permettre que la haine qui nous entoure trouve sa place dans nos cœurs. C'est par la foi que nous apprenons à reconnaître la présence vivante de Jésus dans nos familles et dans chaque relation. Bien que les temps soient difficiles, l'espérance chrétienne ne consiste pas en une attente passive de quelque chose qui vienne du futur ou des autres. C'est une force qui naît du cœur. Espérer, pour le chrétien, c'est préserver et nourrir la foi en la présence du Christ dans chacune de nos relations quotidiennes.
The presence of Jesus, the faith in our relations.
À la lumière des évolutions rapides du monde actuel qui transforment les repères moraux et engendrent des difficultés dans les relations conjugales, le jubilé de l'espérance nous rappelle que le mariage chrétien n'est pas un contrat social, mais un sacrement sacré.
Tout cela représente un défi important, surtout pour les jeunes dont la manière de penser est souvent plus influencée par les médias que par la famille, l'école ou l'église. Dans la culture contemporaine, un mot qui semble avoir disparu est « pour toujours ». Pourtant, l'amour béni par Dieu n'est pas quelque chose que l'on change comme un vêtement, mais une réalité qui dure pour toujours.
It's not something that you can change as we change our dresses. It's something forever.
Le patriarche a ensuite conclu son homélie en observant que ce n'est qu'en présence de Jésus que nous pouvons apprendre à surmonter les problèmes et les difficultés et à toujours recommencer. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous reconnaissons qu'il ne peut y avoir d'unité dans nos familles sans lui. La célébration s'est terminée par une procession joyeuse autour du monastère à laquelle ont participé des prêtres et des fidèles portant une icône de la Sainte Famille. À la fin, la prière du jubilé a été récitée, suivie de la bénédiction finale donnée à tous les fidèles présents. La scène de l'événement de la Pentecôte, telle que l'a vécue l'Église naissante à Jérusalem, se dévoile aujourd'hui au regard grâce à la sensibilité et à la précision de l'artiste chilien Daniel Cariola, qui a consacré 7 années de travail à cette salle. Sa rencontre avec le mouvement Regnum Christi s'est faite grâce à l'une de ses élèves, Maria de la Luz Fernandez, qui le présenta au père Juan Maria Solana, directeur du projet Magdala. C'est dans ce contexte que l'artiste donna naissance à sa première œuvre, la scène de l'Hémorroïs.
Effectivement, quand je suis arrivé la première fois à Jérusalem, visitamos el lugar donde...
En effet, lorsque je suis arrivé pour la première fois à Jérusalem, j'ai visité le lieu où l'on suppose que cet événement s'est déroulé, c'est-à-dire le Cénacle. À partir de là, j'ai commencé à visiter différents endroits en quête d'inspiration. Arcs, pierres, éléments architecturaux qui pourraient nourrir cette œuvre. C'est ainsi que j'ai souhaité en restituer, autant que possible, les teintes, les textures, les formes des colonnes et des chapiteaux.
Las piedras, el tipo de formas en las columnas, los capiteles.
Utilisant la technique de la peinture à l'huile sur toile, l'artiste a représenté 119 personnes et non les 120 mentionnées dans le livre des Actes des Apôtres. Un choix symbolique destiné à inviter le visiteur à se sentir partie intégrante de l'œuvre et à repartir avec la signification profonde du mystère de la Pentecôte ainsi que son lien avec le monde juif. Le réalisme saisissant de l'œuvre tient à la contribution de modèles bien réels, amis, proches et connaissances, qui ont prêté leur visage pour donner vie au tableau. L'artiste lui-même s'est également intégré à la scène, se représentant dans une posture empreinte de profond respect.
Le père Juan m'a demandé de représenter toutes les expressions qui auraient pu animer ce moment-là. La peur, la joie, la curiosité, l'émerveillement face à quelque chose d'incompréhensible. Comme, par exemple, dans le cas des fillettes qui sont représentées ici.
Como por ejemplo ahí las niñas, ¿no? Esa niña se encuentra como no sabe lo que pasa.
Pour Daniel, cet événement a été extraordinaire, même pour les non-croyants, comme lui, qui étaient présents à Jérusalem. Il est néanmoins convaincu que tout cela a réellement eu lieu.
Tout cela faisait aussi partie de mon expérience personnelle vis-à-vis des Écritures, car même si je ne suis pas un homme religieux, je connais les Écritures depuis l'enfance.
L'ouverture officielle de la salle au public a eu lieu le samedi 7 juin, accompagnée de la bénédiction donnée par sa béatitude, le cardinal Pierre Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, en présence de nombreuses autorités ecclésiastiques et civiles.
Nous sommes véritablement heureux d'avoir atteint ce cap. Je dois dire que mes attentes ont été largement dépassées. Je suis profondément reconnaissant envers Dieu et l'artiste Daniel Cariola.
And it also, this room reminds us how our beginning is linked and part of an expression of Christ's Jewishness.
Cette salle nous rappelle combien notre origine est liée et fait partie intégrante d'une expression de la judéité du Christ et de son identité de rabbin. Et comment nous sommes encore aujourd'hui inspirés par cet esprit, que nous continuons de faire vivre en dialogue et en communion avec les autres confessions. Ce sont, selon moi, des leçons précieuses, non seulement pour l'époque du Christ, mais plus encore pour aujourd'hui. En ces temps marqués par la guerre et les conflits, nous avons un besoin urgent de signes d'unité, de communion et de conscience que nous sommes tous unis sous le regard d'un Dieu merveilleux et plein d'amour.
United under a wonderful, loving God.
Le centre culturel Osama Hamdan, situé dans la ville de Béthanie, à l'est de Jérusalem, représente un lieu important dans les efforts palestiniens pour préserver le patrimoine culturel et religieux de la Terre Sainte. Nommé en l'honneur de l'architecte Osama Hamdan, aujourd'hui disparu, le centre rend hommage à son travail remarquable dans la restauration de sites archéologiques, notamment au sein de l'église du Saint-Sépulcre, sur le site du tombeau de Lazare, ainsi que dans d'autres lieux historiques de Cisjordanie. Le centre se consacre à la préservation de l'identité architecturale et religieuse de la ville de Béthanie et de ses environs, à travers des projets de restauration et de documentation, ainsi que des initiatives de formation et des ateliers spécialisés en archéologie et en conservation du patrimoine. Le projet est mené en collaboration avec des universités locales et internationales, ainsi que des experts du secteur, avec le soutien de la coopération italienne et en partenariat avec l'association Pro Terra Santa.
Il a été désigné comme centre de coordination du projet Protection de la Palestine à Béthanie, une initiative d'envergure visant à préserver le patrimoine culturel tout en l'intégrant dans des activités de formation et de sensibilisation. Cette année, une licence universitaire a été lancée en partenariat avec l'Université Al-Quds de Jérusalem et l'Université de Palerme. Le programme a pour objectif de former les étudiants aux techniques de conservation, de restauration et de protection du patrimoine, tout en leur offrant l'opportunité d'acquérir une expérience concrète grâce à des travaux pratiques sur le terrain.
Une institution qui contribue également à renforcer la résilience de la communauté locale de Béthanie à travers des initiatives économiques et sociales durables, comme le projet de la fabrique de bougies, qui a offert des opportunités d'emploi aux femmes dans un contexte marqué par la dégradation des conditions économiques. Nous avons cherché à relier le patrimoine culturel au travail des femmes, afin qu'elles puissent réaliser un projet artisanal local lié au territoire. Cette initiative a apporté non seulement des bénéfices économiques, mais aussi un impact social important, en leur offrant la possibilité de contribuer activement au soutien familial, de disposer d'une source de revenus et de renforcer leur autonomie.
And help themselves and their family.
L'un des projets les plus significatifs actuellement en cours est la reconstruction d'une salle des croisés, qui sera par la suite appelée Heritage Hall.
Nous avons créé un parcours qui part du tombeau, passe par l'église orthodoxe, le musée et les arches. Le visiteur accède à la salle par la partie supérieure, conçue comme un centre d'interprétation équipé de technologies modernes. Vidéo, réalité virtuelle et écran tactile permettant de raconter l'histoire du pays, de l'époque romaine jusqu'à nos jours.
Ce modèle de coopération palestinienne et internationale dans la conservation du patrimoine culturel est particulièrement apprécié des églises pour son rôle dans la revitalisation des sites religieux aujourd'hui ouverts aux pèlerins venus du monde entier. conférence des commissaires de langue italienne en collaboration avec le commissariat Liaison Office a organisé du 2 au 9 juin un cours de mise à jour pour 26 commissaires et collaborateurs. Entre Jérusalem et le désert du Negev, les participants ont vécu des journées de recherche et d'approfondissement à la lumière de l'Ancien et du Nouveau Testament. Le professeur et père John Antonio explique que marcher en terre étrangère signifie aussi lire et comprendre les civilisations qui ont habité le désert, comme le peuple édomite, iduméen et nabatéen.
Ces civilisations ont laissé des traces significatives sur le territoire, témoignant de leur maîtrise du désert. Sachant que Petra était étroitement liée au port de Gaza, c'est précisément le long de cette voie, sur ce tronçon de terre, que se sont implantés les premiers annonciateurs de l'Évangile et les premières communautés chrétiennes, qui ont fleuri jusqu'au 8e et 9e siècle.
Fino all'ottavo e nono secolo.
Selon le frère Matteo, venir dans le désert accompagné par la parole de Dieu est une occasion unique, mais aussi le signe d'une quête de sens, d'une recherche de signification, qui ensuite doit être racontée et partagée.
Il deserto è una realtà in movimento. Questo ce lo dice la spiritualità della Bibbia, no? Fare un corso di aggiornamento.
Le désert est une réalité en perpétuel mouvement, comme nous l'enseigne la spiritualité biblique. Suivre un cours de mise à jour dans le désert en cette période de l'histoire, ce n'est pas seulement l'occasion de revenir sur les lieux de la Genèse et de l'Ancien Testament. Cela représente aussi une opportunité de retrouver du sens, dans une époque marquée par la destruction, l'absurde, la souffrance et le vide. Nous sommes ici à Ein Avdat, et ce que vous voyez derrière moi est l'un des wadis les plus importants à parcourir le long de la route du désert. Les psaumes deviennent concrets, la parole de Dieu se fait chair, elle devient vie. Marcher dans le désert signifie s'inscrire dans les pas de ceux qui nous ont précédés, dans une démarche de mémoire, de foi et surtout d'ouverture vers l'avenir.
Soprattutto direi in quello che sarà la prospettiva del futuro.
Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.
Vous écoutez KTO Radio. Vous écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet.
Cette semaine à l'émission, on parle de musique sacrée avec deux vrais passionnés et on se demande quels sont les effets du chant choral sur le cerveau. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode consacré à la musique sacrée, justement. Et nous avons aujourd'hui avec nous Jean-Claude Picard, directeur artistique et chef de chœur de Voces Domini. Bienvenue.
Merci.
Frédéric Corneau, qui est aussi membre de cet ensemble, qui est ténor. Bonjour Frédéric.
Bonjour, bonjour.
Bienvenue, on n'est pas du monde.
Merci.
Et journaliste qui est en train de devenir une habituée d'On n'est pas du monde, c'est sa deuxième apparition en onde. Stéphanie Grimard, journaliste pour Le Verbe Média, bonjour.
Bonjour Antoine.
Aujourd'hui, on parle de chant choral, on parle d'ensemble de musique sacrée. Beaucoup, c'est une émission consacrée, je le disais, à la musique liturgique, à la musique sacrée. On va essayer de démêler tout ça. Ça concerne qui, le chant choral, par exemple, au Québec, Stéphanie?
En fait, c'est surprenant. Il y a plus de 510 000 personnes qui sont membres d'un chœur ici au Québec.
Pardon? Ouais. Un demi-million de personnes.
Un demi-million de personnes qui chantent en chorale.
Wow.
Dans plus de 3 000 chœurs différents au Québec.
Quand même ouais, impressionnant.
Ouais. C'est des statistiques qui datent de 2016, de l'Alliance chorale, mais ouais.
Ça donne quand même un ordre de grandeur.
Et moi, ça m'a surprise.
Auriez-vous pensé ça, Jean-Claude?
Moi, oui, parce que j'étais là-dedans beaucoup, beaucoup. L'Alliance chorale, à l'époque où ça a été fondé, avec François Provencher et bien d'autres. Mais il y a toujours eu beaucoup, beaucoup de gens qui ont fait du chant choral de façon, certains professionnels, d'autres, évidemment, la majorité, ce sont des amateurs qui aiment chanter. Et au Québec, on a chanté partout pendant longtemps.
C'est vrai. Mm-hmm.
Ben moi, j'ignorais l'ampleur, mais je me doutais bien quand même qu'il y en avait beaucoup.
Mais c'est réjouissant de voir ça quand même, hein, parce que tu vas en parler dans quelques minutes, Stéphanie. Il y a plusieurs bienfaits au chant choral. Jean-Claude, vous venez nous dire que depuis toujours, pratiquement, on chante au Québec. Je serais curieux de savoir, vous, personnellement, vous chantez depuis combien de temps?
Frédéric? Moi, j'ai commencé à chanter, excusez.
Allez-y.
J'ai commencé à chanter... dans un chœur, j'avais 9 ans, je suis devenu un petit chanteur à la Croix de Bois, qu'on appelait à l'époque, qui est devenu la maîtrise du chapitre de Québec, et puis ça remonte à il y a tellement longtemps.
Et ça existe toujours, la maîtrise du chapitre de Québec?
Ça existe toujours. Pendant longtemps, à Québec, c'était le seul chœur de garçons. Parce qu'à l'époque où moi j'y étais, on était une trentaine à peu près, et nous n'étions que des garçons, et on chantait la messe. Et c'est pourquoi on s'appelle le chœur du chapitre. On chantait la messe du chapitre à la basilique à 8 heures, à tous les matins.
Pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est que le chapitre, en quelques mots?
En quelques mots, le chapitre, c'était à l'époque le conseil d'administration de l'évêque avec qui il prenait les décisions administratives et les membres s'appelaient des chanoines. Alors c'est pourquoi longtemps le directeur par exemple de la maîtrise a été un chanoine jusqu'à sa mort. Après ça, c'est la commission scolaire qui a rapatrié la maîtrise pour en faire un chœur de ville. Et après ça, il est devenu mixte et il existe toujours.
Qui est la maîtrise des petits chanteurs de Québec, là, qu'on peut entendre parfois à la cathédrale encore aujourd'hui.
Oui.
Et Frédéric?
Mais moi, ça va moins loin dans mon historique, mais seulement moi, j'ai été imprégné de musique de toute nature, le chant en particulier, de par ma famille. Dans ma famille, il y a énormément de musique. Il y a des chanteurs professionnels, il y a des compositeurs aussi. Du côté des Laprise, pour ne pas les nommer, ils ont produit avec plusieurs personnes des opérettes pendant des années au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et moi, j'ai toujours été un grand amateur aussi de musique sacrée, musique religieuse. Alors, très jeune, je faisais déjà partie d'une chorale à la cathédrale de Chicoutimi. Mm. Je me suis initié là. J'ai toujours adoré ça à titre amateur. J'ai fait des études musicales au conservatoire du Saguenay quand j'étais plus jeune.
Ah oui.
Mais c'est toujours demeuré. Malgré une carrière extérieure à la musique que j'ai faite, j'ai gardé ça. Et seulement, j'ai repris plus tardivement, aux alentours de 2015, quand j'ai connu M. Picard, qui est ici, qui est devenu un grand ami, d'ailleurs. Et j'ai repris, en fait, ce que j'aurais pu appeler mes anciennes amours. Ça veut dire que je me suis mis à en faire beaucoup plus. Et c'est là que j'ai découvert ce dont Jean-Claude parle. C'était relié au chapitre métropolitain, son répertoire musical que moi j'ai redécouvert, même si pour plusieurs ça existait depuis toujours. Je l'ai découvert et j'ai vu à quel point c'était un trésor riche, varié et qui à mon sens, était tout à fait actuel. Alors,
Et cet amour pour ce trésor-là s'est transformé en un projet dont on va parler un peu plus tard dans l'émission, Frédéric. Oui. On se tutoie là, parce qu'on se connaît. Oui. Je pense qu'on se connaît depuis déjà un bon bout de temps. Stéphanie, t'as une carrière de chanteuse?
Une carrière
de journaliste?
Ça fait quand même une dizaine d'années que je participe à la chorale Le Cœur du Vallon, ici à Québec. Ouais. Puis on est quand même... ça varie d'une session à l'autre, mais entre 80 et 100 choristes.
Et c'est du monde.
Ouais. Puis on fait deux concerts par année.
C'est du chant sacré ou...
Chant sacré, mais aussi populaire. On fait un peu des deux. Ouais.
Ah, c'est intéressant.
Ouais.
Alors, sans plus tarder, là, allons voir les bienfaits du chant choral sur la santé humaine. Mm-hmm. Stéphanie Grimard, bonjour.
Bonjour, Antoine.
Journaliste pour Le Ver Média, tu fais partie d'une chorale depuis quelques années, Le Cœur du Vallon, ici à Québec. Dis-moi, Stéphanie, pourquoi tu chantes?
Pour plusieurs raisons, mais je dirais, en un mot, je dirais la communion, le fait de participer en commun à une grande œuvre qui nous dépasse. Moi, c'est ce qui me procure personnellement le plus de joie. Là. Mmh. Les concerts, l'œuvre finale que ça produit. Les pratiques de semaine en semaine, c'est toujours des moments extrêmement agréables, mais on dirait que quand ça culmine dans le concert, c'est vraiment...
C'est là la paix.
C'est la paix, oui. Ça nous dépasse, puis c'est extraordinaire.
Au-delà de ce plaisir-là, en tout cas, qui est propre peut-être à ton expérience personnelle, je pense qu'on peut extrapoler, on peut aller voir un peu plus large. Stéphanie, tu as fait des recherches pour découvrir que le chant choral a toutes sortes de bienfaits
pour
toute personne, finalement.
Sans m'en rendre compte que j'en bénéficie à ce point-là, ça m'a impressionnée, en effet, parce que si on regarde juste le côté physique, là, le fait de respirer, d'être conscient plus de notre respiration, d'avoir une attention portée sur le souffle, on respire plus amplement quand on chante, mais ça va oxygéner le corps, ça vient ralentir le rythme cardiaque, ça baisse la tension artérielle. Le simple fait de se concentrer sur sa respiration puis d'en être conscient, ça a déjà tout de suite ces effets bénéfiques-là. Ça baisse immédiatement le taux de cortisol, l'hormone du stress. Le corps se décharge de cette hormone-là pendant qu'on chante. On a aussi tout de suite une meilleure conscience de notre corps. La respiration, c'est une chose, mais notre posture, la façon dont on va se tenir, les muscles du bas du dos sont très sollicités. On parle du tonus ou de l'appui. Quand on dit qu'il faut appuyer notre son, c'est qu'il faut toujours avoir le bas du dos et les abdominaux sollicités pour bien produire le son. Donc, ces éléments-là qui font qu'on a une meilleure conscience de notre souffle et de notre corps, ça a déjà des effets substantiels.
Parce que pour le commun des mortels, on pense que ça se situe surtout dans la gorge, les cordes vocales, mais c'est tout le corps qui chante.
C'est tout le corps.
Tu es d'accord avec ça, Jean-Claude? Ouais.
Oui, parce qu'on oublie que le chant, c'est un instrument à vent. Mm-hmm. Les cordes vocales, c'est un muscle qui est... c'est quoi le bon mot? Contrairement à un muscle qu'on peut contracter, c'est un muscle qui est, ce serait quoi le bon mot, qui ne peut pas se contracter. Alors, pour faire vibrer les cordes vocales, il faut que l'air passe et c'est la pression du diaphragme qui fait que les cordes vocales peuvent se mettre à vibrer et c'est à ce moment-là qu'on commence à chanter. Alors, quand les gens disent « j'ai mal à la gorge quand je chante », c'est juste parce que le souffle n'est pas bien contrôlé. Mm-hmm. Et c'est de ça que vous parliez tantôt. Mm-hmm. Le souffle chez le chanteur fait que la plupart du temps, les chanteurs vieillissent bien. Ils vieillissent en santé parce que toute leur vie, ils ont respiré profondément et ils n'ont pas jeté la voix. Parce que le chanter avec un micro et ne pas s'occuper de l'appareil vocal fait souvent que des gens qui sont en musique populaire, ouais. je ne dénigre pas ça, j'ai fait du cabaret dans ma vie, mais c'est que quand on ne s'en soucie pas, les gens font des nodules aux cordes vocales, puis des fois, c'est très dommageable.
Ouais.
Mais se préoccuper de la façon de projeter l'air pour produire le son, c'est une expérience extraordinaire. Et je dirais pour ajouter que généralement, les chanteurs sont des gens de bonne humeur.
Ah oui, c'est ça, il y a des effets.
Il y a des effets sur la santé mentale aussi.
Oui,
c'est ça.
Absolument.
Oui, mais c'est ça.
Ça a été étudié.
Il y a un paquet d'études qui ont été faites, des essais cliniques qui ont démontré que ça stimule la sécrétion des hormones, les fameuses hormones du plaisir. Là, on a l'oxytocine, la dopamine, les endorphines, la sérotonine. Toutes ces hormones-là sont mobilisées, sont sécrétées lorsqu'on chante. Et ça a un effet non seulement presque euphorisant, mais même antidouleur. Ça a l'air que ça peut aider à gérer la douleur chronique, à gérer certains troubles aussi neurodégénératifs comme la sclérose en plaques, le Parkinson, l'Alzheimer aussi, parce que c'est justement, ça mobilise, ça active toutes sortes de fonctions cognitives comme l'attention, la mémoire, la concentration. Donc, toutes ces zones-là du cerveau qui sont maintenues en éveil lorsqu'on chante, ça assure une meilleure santé. Ça prévient aussi le vieillissement prématuré de ces fonctions-là.
Mais la sécrétion de ces drogues-là du plaisir, ces hormones-là du plaisir, c'est comme de la drogue bon marché.
absolument.
Légale, en plus. C'est formidable.
Absolument.
Ça passe partout.
Oui, c'est ça.
Non, puis c'est ça. Il y a des observations cliniques qui ont montré aussi que pour ceux qui sont atteints, par exemple, d'état dépressif ou qui font de l'angoisse, de l'anxiété, des gens qui ont des tendances à ruminer, à avoir des pensées obsédantes, ben le fait de consacrer son attention et sa concentration sur tout ce qui nous sollicite lorsqu'on chante, ben ça fait qu'on n'est pas concentré sur nos tracas ou sur nos pensées obsédantes. Donc, ça a justement tous ces bienfaits-là qui viennent avec.
Moi, j'ai envie d'ajouter que quand on a un chœur et qu'on fait de la musique et qu'on va dans une résidence de personnes âgées, les gens qui s'occupent de ces personnes-là sont toujours surprises. Les personnes sont surprises de voir l'effet. Alors, moi, j'ai un souvenir très vivant ou dans une résidence pour personnes âgées où les gens étaient alités, des gens qui n'avaient pas parlé depuis des années. Mm-hmm. Quand on s'est mis à chanter du répertoire qui leur rappelait des souvenirs, tout à coup, ils se sont mis à battre des mains, mm-hmm. ils se sont mis à chanter. Je me souviens, j'avais chanté un Minuit chrétien et j'ai été obligé de me battre presque avec ces personnes-là parce qu'ils m'enterraient tant qu'eux autres, ça leur a rappelé des souvenirs. Alors, ça réveille toute la partie cognitive. Je pense qu'au niveau de la médecine, souvent, on oublie l'effet que le chant en particulier, le souvenir de la mélodie et des mots qui viennent avec peuvent véhiculer énormément d'énergie dans le corps des personnes qui ont vieilli.
Oui, c'est intéressant, Frédéric.
Mais je partage ça tout à fait. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui est dans un CHSLD et je l'ai vu de mes yeux. J'ai vu des musiciens venir chanter et jouer de la musique. Et ces personnes-là font comme renaître. Et ils chantent, ils s'en rappellent. Si ce sont des chants qu'ils ont connus plus jeunes, ils les chantent. Puis c'est vrai qu'ils chantent fort, ils enterrent la personne. ils font à l'occasion, à la résidence, oui, la personne, c'est mon beau-père, on peut le dire quand même. T'sais. Et il y a une chapelle, et puis ils font une messe à tous les dimanches. Et puis le célébrant a demandé y a-t-il quelqu'un qui pourrait chanter. Alors je l'ai fait une fois, et un autre qui est venu aussi, et c'était incroyable la réponse des gens qui normalement ne disent plus un mot, mais qui se sont mis à chanter, même si c'était partiellement, ils étaient très imprégnés. Ça leur a fait un bien immense. C'est très touchant là. Puis ça donne beaucoup de couleurs là, à ce bienfait-là de chanter.
Mmh. Tout à fait, Stéphanie.
C'est ça, il y en a qui disent aussi, pas seulement, oui, les personnes vieillissantes, tout à fait, mais ceux qui ont vécu des accidents, par exemple un AVC ou quelque chose comme ça, qui perdent certaines fonctions langagières, par le chant, ils arrivent à réactiver ces zones-là, puis à reprendre de petit à petit le chemin de la parole.
Fascinant.
C'est impressionnant, ouais.
Un autre aspect de la santé qui est peut-être moins étudié ou moins compris, c'est la question de la santé sociale. On est vraiment dans la santé globale. Mm-hmm. La personne a un corps, a une tête aussi ou un cerveau, mais aussi toutes sortes de relations. Mm-hmm. Quel impact ça a sur la santé sociale de quelqu'un, le fait de chanter en chorale?
Bien, c'est ça, le fait d'appartenir à ce groupe-là, de la chorale, ça favorise évidemment le sentiment d'appartenance à un groupe. Ça brise la solitude. Il y a des personnes plus âgées aussi qui sont de plus en plus solitaires et qui peuvent se retrouver en groupe pour chanter. Mais au-delà de ça, c'est le simple fait de, comme je disais tout à l'heure, participer à quelque chose de plus grand que soi. T'sais, même si on n'est pas obligé nécessairement d'entrer en conversation avec la personne, mais le fait de participer, de faire corps dans cet organisme-là, ouais, qui est la chorale, fait qu'on est dans le lien social directement d'emblée. Là, on chante à plusieurs, on s'ajuste notre voix selon celle de l'autre. On est tous dirigés par la même personne devant nous qui joue avec nous comme si on était un instrument, en fait. T'sais, on devient l'instrument du chef de chœur, en quelque sorte. Donc, ça fait que... d'être dans un état un peu de... Il y en a qui appellent ça le flow.
Un abandon,
c'est ça. On oublie le temps qui passe, on oublie nos soucis. On est dans la zone, on peut dire aussi, d'une autre façon. Puis ça, c'est cet effet de groupe-là qui participe à cette... je dirais encore là, d'euphorie, là, quand on atteint la note juste ou la bonne harmonie. Il ouais. y a quelque chose de vraiment...
grisant.
Il y a une vibration ouais. collective, tu sais, qui fait que... C'est ça, qu'on sent qu'on est dans un groupe, puis ça, évidemment, ça permet des échanges aussi. Il y a des amitiés qui naissent là, dans les pupitres, dans les différents pupitres des chorales. C'est vraiment un outil, je pense, de socialisation privilégiée.
Ça peut même être une belle activité, ça peut paraître un peu contre-intuitif, ça peut même être une belle activité pour quelqu'un qui est plus gêné, qui est plus timide, parce que on chante par en avant, là, non, mais vous voyez ce que je veux dire?
Oui, puis on peut s'appuyer sur les autres, on n'est pas seul à chanter. Si on fait une petite erreur ou si on oublie un passage, ben on sent que nos voisins peuvent... on peut s'appuyer dessus, donc il y en a qui parlent de ça, ce sentiment-là un peu de sécurisant d'être dans un groupe choral, oui.
Mais je pense qu'il ne faut jamais oublier la récompense. Mm-hmm. Pour quelqu'un qui n'a jamais été sur une scène, d'être sur une scène dans un chœur, finir quelque chose de beau et tout à coup de recevoir les applaudissements de la salle, c'est une nourriture extraordinaire. Mm. On oublie ça souvent. Et c'est ce qui fait que les gens... lorsqu'ils ont chanté une première fois dans un chœur, qu'ils n'ont jamais chanté, puis qu'ils font un premier concert, ils veulent continuer. Parce que tout à coup, tu finis une pièce, puis là, la salle fait applaudit. Et la vague d'applaudissements, c'est quelque chose d'inimitable. C'est comme une vague d'océan qui arrive avec une énergie extraordinaire. Alors, quand la deuxième pièce commence, là, tu veux faire encore mieux. Et c'est ce qui fait que c'est extraordinaire, parce qu'on a eu la répétition. Là, on est en concert, on a une première récompense, puis là, on veut se surpasser. Mmh. Et c'est ce qui fait que c'est si extraordinaire de se serrer les coudes quand on est dans un chœur, les amitiés qu'on développe, la puissance de cet euphorisme-là qui nous arrive, c'est quelque chose qui est difficilement remplaçable.
Frédéric?
Ah ben, moi, regarde.
Quand on a goûté à ça, on ne veut plus s'en passer.
Absolument, mm-hmm. Oui. Et d'ailleurs, je dirais que ce genre d'euphorie-là, cette impression-là, elle n'est pas unique là, à un type de musique. Là. C'est un petit peu dans tout ce qu'on fait. C'est le rendu, c'est le fait d'avoir chanté ensemble, c'est de voir aussi la réaction de la salle.
D'avoir réalisé quelque chose de bien, de beau, de bon, et d'en faire profiter une foule qui l'apprécie.
Et c'est pour ça que moi, c'est une expression que j'utilise souvent, que je dis la musique élève l'âme. Ouais. C'est dans ce sens-là. Mm-hmm. Ça va pour ceux qui les écoutent, mais ça va pour ceux qui la chantent aussi, puis entre nous. Et puis, on s'appuie beaucoup l'un sur l'autre. Puis c'est drôle, je fais juste une parenthèse. C'est quand on fait une pratique, puis on en vue de la représentation, que ce soit le concert, que ce soit une messe, ces choses-là, on fait de notre mieux. Mais quand on arrive live, là, sur scène, là, il faut y aller avec comment ça va, tu sais. des fois, ça accroche un petit peu, mais là, on se tient. On se tient entre nous autres. Il y en a un qui l'échappe un peu dans son pupitre, là, tu sais. Et on voit qu'on essaye de soit de l'aider à se replacer ou encore, ça va dans les deux sens. Mais ça va dans le sens de rendre l'œuvre jusqu'au bout sans s'arrêter. Et après ça, on est content du travail qu'on a fait parce que c'est collectif.
C'est ça.
Alors, tout ça, ça donne une émotion qui est vraiment palpable, là.
Ce que tu dis, Frédéric, sur le fait que ça élève l'âme, ça fait magnifiquement le pont vers le dernier point de Stéphanie, parce qu'elle voulait nous parler de la santé spirituelle.
Ouais.
Il y a des impacts, là aussi.
Ben oui, le fait, c'est ça, de chanter en commun, mais chanter de la musique sacrée, ça vient aussi chercher quelque chose de très profond. Quand on pense que c'est des textes qui ont été écrits, je veux dire, il y a des siècles, puis on continue de les chanter de génération en génération, ça aussi, ça fait qu'on se sent comme partie de quelque chose de beaucoup plus grand que nous, qui nous dépasse. Puis c'est ça, c'est cette communion-là, le fait de chanter ensemble. C'est Saint-Augustin qui disait « chanter, c'est prier deux fois ». Il y a ça aussi qui la prière est vraiment incarnée dans la voix. J'ai déjà entendu l'expression « la voix, c'est le muscle de l'âme ». Ben c'est ça, on est élevé, ça nous transcende un peu, puis c'est de le vivre en commun, ça donne un degré de plus, je pense, à la prière.
Clairement. Ouais. Stéphanie Grimard, journaliste pour Le Verbe Média, merci beaucoup pour cet éclairage.
Ça fait plaisir.
Monsieur Jean-Claude Picard, directeur artistique et chef de chœur de Voces Domini. Bienvenue à On n'est pas du monde.
Merci.
Alors, ça fait déjà plusieurs années que vous dirigez des ensembles vocaux. J'aimerais en savoir plus sur votre parcours. Comment vous en êtes venu à être chef de chœur?
C'est très curieux, hein? On devient chef de chœur comme... ça va de soi. Après ça, moi, j'ai étudié, évidemment, j'ai fait mes études à l'Université Laval en musique, j'ai fait un baccalauréat, une maîtrise, j'ai fait de la direction chorale professionnelle, mais ça faisait longtemps que je dirigeais. J'étais au collège, on a monté des œuvres, on a monté Traviata, on a monté La Belle Hélène, et c'était Jean-Claude qui dirigeait les chœurs. J'avais pas de technique, mais ça marchait. Alors, je pense que c'est la façon d'être un leader, influenceur, et qui fait qu'à un moment donné, les gens, naturellement, disent « Dirige donc, t'es capable. » Alors, les premiers temps, juste faire le geste du départ, c'est une technique en soi, mais la première fois, t'espères qu'ils vont tous partir en même temps, parce que tu sais pas comment faire. Mais ça s'apprend. Et c'est de là que vient la richesse de l'échange entre les chanteurs et le chef. Tantôt, vous disiez qu'on est l'instrument du chef. C'est vrai, un chœur, il faut le voir comme un orchestre qu'on dirige. Mais le chœur nous nourrit. C'est absolument extraordinaire, diriger, d'arriver à des moments magiques où là, on dit, je pense qu'on n'aurait pas pu faire mieux. Et ça, c'est, j'ai presque envie de dire, rare. Parce que d'atteindre un certain niveau, quel que soit le type de chœur qu'on dirige, atteindre un niveau extraordinaire, par exemple à la maîtrise, quand je dirigeais la maîtrise, ben avec des enfants de 4e, 5e, 6e année, ben atteindre un niveau d'exécution dont on est satisfait, c'est magique. Mmh. Et les enfants, tout à coup, ont les yeux grands, grands ouverts.
Et vous vous trouvez... dans le meilleur siège, même si vous êtes debout, vous êtes le premier spectateur, finalement, du chœur, parce que l'endroit où vous vous trouvez, ça vous met vraiment aux premières loges de ce spectacle.
Oui, on est à la fois le spectateur et celui qui fait que ça arrive. Parce que c'est très curieux, de la même façon qu'un chef d'orchestre peut transformer la sonorité d'un orchestre, un chef de chœur qui se plante devant un groupe, eh bien, vous pouvez placer trois chefs de chœur différents qui vont chanter la même œuvre, puis vous allez avoir trois rendus différents juste par la façon dont le chef communique avec ses mains, sa figure. Parce que la première chose qu'il ne faut pas faire, c'est chanter. quand on dirige, parce que si on chante, on n'écoute plus la chorale, mais on s'écoute chanter. Ouais. Alors, il faut vraiment être à l'affût tout le temps de ce qui se passe et contrôler, par exemple, si on a un chœur d'une centaine de voix comme le chœur du Vallon, mais là, il faut contrôler la balance. Est-ce que les sopranos sont trop forts par rapport aux basses, etc., etc.? Mais un coup qu'on maîtrise ça, là, maintenant, on s'assure que ça, l'unité est là et que les voix se fondent. Et c'est à ce moment-là que le cœur commence à répondre, parce que lui aussi, les personnes se rendent compte que, regardons ça, ça commence à être beau. Puis là, on se regarde, puis on dit « wow ». Mais oui, on n'a pas le temps de dire « wow » parce qu'on chante. Hein? Et le choix du répertoire aussi. Et tous les répertoires ont leur qualité. On peut chanter de la chansonnette bien arrangée, ou on peut chanter le Messie de Handel, ou on peut chanter une polyphonie de Palestrina ou un autre. Le rendu que le chef est capable d'atteindre avec son cœur est à la fois extraordinaire pour les choristes et extraordinaire pour celui qui dirige. C'est fantastique de diriger.
Frédéric, tu es d'accord avec ça?
Tout à fait.
Je te vois, Pisnay. Oui. Jean-Claude Picard, je le disais, là, vous êtes directeur artistique, chef de chœur, vous faites ça depuis des années. Plus récemment, vous avez été, corrigez-moi si je me trompe, chef de chœur de l'église Saint-Cœur de Marie, qui aujourd'hui est...
Non, j'étais pas chef de chœur.
Oh, pardon.
Je faisais partie du chœur.
Aha.
C'est Claude Gosselin qui a dirigé le chœur de Saint-Cœur de Marie pendant, je pense, 30 ans. Et moi, j'ai fait partie de son ensemble vocal pendant plusieurs années.
Sur Grande Allée, là, c'est...
Sur Grande Allée, en face du Concorde.
Dans le plein cœur de Québec.
Oui.
Cette église-là n'existe
non.
plus. J'ai entendu dire que cette église-là contenait de nombreuses partitions à cette époque-là. Ce chœur-là était assis sur une mine d'or de partitions dont certaines sont très rares.
Oui.
C'est juste?
Quand on chantait à Saint-Cœur de Marie jusqu'à la fin de la paroisse, il y avait un répertoire de messes. Kyrie, Santos, Agnus, Gloria, Credo, parce qu'à l'époque, on chantait tout, où il devait y avoir à peu près une centaine de messes répertoriées, parce que chacune avait son numéro pour que ça aille vite quand on en avait besoin, qu'on a interprété à tous les dimanches, parce que c'était un chœur qui était généralement bien fourni. C'était un chœur d'hommes, principalement le dimanche. À ça se greffaient des femmes pour faire un chœur à voix mixte que Claude dirigeait pour faire des concerts aussi. Alors, il y a eu les deux répertoires, ça sont faits. Alors, à 5h de Marie, il y avait vraiment tout des classeurs pleins de musique qui, lorsque l'Église a été désacralisée, les partitions sont comme disparues. Moi, j'en ai récupéré un peu. On a quelques-uns de nos amis chanteurs qui en ont récupéré un peu, mais le trésor s'est perdu.
Ça, c'est intéressant parce que, en tout cas, moi qui suis un ignare en la matière, il y a un répertoire important au Québec. Il y a des messes qui ont été écrites ici par des compositeurs locaux et qui sont à peu près pas ou pu chanter dans nos paroisses. Est-ce que je me trompe?
Absolument. C'est tout à fait vrai. Si je peux me permettre...
Je t'en prie, Fred.
Moi, c'est un élément central là, dans tout le projet là, qui tourne autour de l'œuvre dont on va parler. C'est que Jean-Claude m'a informé de ces choses-là, de ce qui se faisait à 5h de Marie et de ce qui était arrivé aux partitions par après. Et là, c'est là que j'ai pris conscience qu'à de nombreux égards dans notre société, le patrimoine s'effrite beaucoup. On peut parler souvent du patrimoine bâti. Mais il y a le patrimoine musical, je dirais religieux aussi, là, pour lequel il existe des trésors absolument incroyables. Et c'est la redécouverte de ces trésors-là qui provoque une émotion, un choc, un choc. Et c'est tout sauf ancien. C'est vrai que ça date pour certains, mais c'est pas si ancien que ça. Là. Et on parle d'un compositeur, pour ne pas le nommer, là, c'est l'organiste dont j'ai oublié le nom, là, voyons, qui était votre organiste.
Homère Les Tourneaux.
Ben, Homère Les Tourneaux aussi, mais.
Mais Claude Bédard.
Mais,
Denis Bédard.
Denis Bédard a écrit des messes en 1984, tu sais, ou même 92.
Donc, c'est assez récent.
Là, on ne parle pas de l'autre siècle, là.
Non.
T'sais? Alors, c'est ça. Alors, il y a des trésors plus anciens, ouais. Assez récents, mais ils sont magnifiquement écrits. Et qui tourne à peu près toujours autour de, vous l'avez nommé, des mêmes mots, des mêmes paroles, choses-là. Ce sont des prières ou des messes, tout simplement.
Ce qu'on appelle l'ordinaire de la messe, là.